Bon, la spécialiste de l'actualité américaine, Valérie Beaudoin, donc, qui est chercheuse à la chaire Raoul Dandurand, commentatrice à RDI, prof maintenant au cégep Édouard-Montpetit. Elle cumule de tous les emplois.
Écoute.
Elle est incroyable. Elle est avec nous. Elle a trouvé un petit peu de temps dans son horaire pour venir nous accompagner. Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Monsieur Luc Lavoie est là, bien sûr.
Oui, puis il voudrait mentionner à quel point la carrière de notre Valérie l'impressionne. Oui. Ça avance toujours, toujours. Bravo, Valérie.
Bien, merci, Luc, c'est gentil.
Bon, bien, profitez-en.
Écoute, ça commence bien.
Honnêtement, ça n'arrive pas souvent. Prends-le
on va garder l'enregistrement, j'espère.
Larry est déjà en train. Larry est en train de le sauvegarder. Le vite, vite, Larry, avant que l'autre se dédise.
Une petite promo, là.
Ben, oui, c'est ça. Alors, on parlait du chaman il y a un instant avec Luc. Bon, il a été condamné à 3 ans et demi de prison. On se rappelle de son capot de fourrure avec ses cordes. Il se prend vraiment pour un chaman, Valérie. Là.
Oui, il est très sérieux dans son personnage. Mais même pour lui, c'est pas un personnage, une extension de lui-même. Et lui, ce qu'il a dit et ce qui est intéressant, mais je veux dire intéressant, je mets des guillemets, c'est quand il est en prison. Il a déjà commencé avec une grève de la faim. Donc, au début, qui a été mis derrière les barreaux pour l'insurrection, il a fait une grève de la faim. Pourquoi? Parce que c'était pas des aliments bio. Donc, la prison le nourrissait pas assez bien. Donc, il a fait une grève de la faim jusqu'à ce qu'on lui donne raison.
Parce qu'un chaman, ça mange bio.
Parce que lui, il veut que ça soit des produits, écoute, le plus naturel possible dans son corps. Écoute, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je te laisse réagir. Écoute, c'est pour vrai. Interviewer un chaman pour lui demander ce que ça mange.
Oublie-le pas, Valérie. Oublie-le pas, dis-le à tes étudiants. Un chaman, ça mange bio.
Écoute.
Alors, lui, il s'était assis. Sur le fauteuil du président du Sénat, hein, le vice-président, en fait, qui préside le Sénat, le vice-président...
Oui. Il avait laissé une note
Mike Pence.
Hein, c'est ça, il avait laissé une note. Ce n'est qu'une question de temps, la justice arrive.
Oui, parce qu'on se rappelle, il faut se dire que le 6 janvier, les gens, qu'est-ce qu'ils criaient? Qu'on devait pendre Mike Pence. Parce que je remets dans le contexte, c'était le vice-président sous Donald Trump et il ne voulait pas empêcher la certification des résultats de l'élection. Donc, lui était là, justement, et il est associé aussi à tout ce qui est QAnon, donc le mouvement conspirationniste, donc un chaman de QAnon qui mange bio. Ça, on a sa description pour son Wikipédia. Mais écoute, ce qu'il y avait aussi d'intéressant dans son plaidoyer, en fait, ce qu'il a dit à la cour lorsqu'on lui a donné sa sentence, c'est qu'il regrettait et qu'il aurait dû plus écouter ce que Gandhi et Jésus ont fait, être plus comme Gandhi, donc de vraiment pas être dans la confrontation. Et je suis sérieuse, là. Je sais que vous trouvez ça drôle, mais c'est vraiment ce
qu'il a dit.
Valérie,
je vais ajouter juste un petit morceau. Je l'ai vu, là. Placé à l'isolement en prison, il a raconté avoir eu le temps de se regarder dans un miroir pour se dire « Mec, tu as vraiment déconné. »
Et voilà, écoute, il a fait une introspection.
On dirait un film américain.
Mais peut-être qu'il va en avoir un. Je trouve que ce serait une très bonne idée. Mais écoute, alors, c'est ce personnage-là qui dit regretter, qui se retrouvera plus jamais derrière les barreaux et qu'il n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû avoir un mouvement pacifique et non conflictuel. Donc, okay, ça allait à l'encontre de ses valeurs. Mais lui, il s'en va en prison 41 mois.
Oui, c'est ça. OK. Bon, ça, c'est la première chose dont je voulais parler avec toi. L'autre chose, c'est le procès de Kyle Rittenhouse, donc le jeune Américain qui a tué 2 personnes lors des manifestations antiracistes à Kelowna.
Oui.
Kenosha, dis-je.
Au Wisconsin.
Bon, là, on attend sa sentence.
On attend le verdict, s'il est coupable ou non.
On attend le verdict, pardon.
Alors, le jury, donc, est rassemblé.
Oui.
Et la question centrale, c'est est-ce qu'il peut vraiment dire que c'était de la légitime défense? Je vais juste expliquer le contexte aux gens. Kyle Rittenhouse habitait en Illinois. Il n'habitait pas au Wisconsin. Il a décidé de se rendre lors d'une manifestation pour défendre les commerçants. Comment? Avec son arme, un AR-15, rien de moins. Mm-hmm. Donc, il est armé jusqu'aux dents. Il avait 17 ans. Il ne devait pas posséder cette arme-là normalement parce qu'il était mineur. Et il s'est rendu sur place et il aurait été dans une confrontation avec des manifestants. Il a tiré sur 3 d'entre eux. Il y en a 2 qui sont décédés, un autre qui a été blessé. Et lui, ce qu'il dit, c'est que comme on le poursuivait, ben il les a tirés par légitime défense, donc il ne devrait pas faire de la prison. Mais ce que les procureurs avancent, c'est au contraire, il l'appelle le touriste du chaos parce qu'il a voyagé d'un État à l'autre. Il n'a pas respecté le couvre-feu et il a décidé de se placer dans une situation car il n'avait aucun lien avec les commerçants. Et le fait qu'il pointait son arme à AR-15, écoute, même le procureur a pris l'arme et l'a pointé dans la cour sur les gens.
Ça, c'était pas intelligent, à me dire, là, après ce qui s'est passé sur le lieu de tournage, là, espèce
de innocent. Fais attention, Bernard, parce que le juge, jusqu'à maintenant, là, il s'est montré, tu sais, dans cet État des États-Unis, ce qu'il appelle le port d'armes visible, je pense qu'il fait une traduction, là.
Oui.
est permis. Tu peux te promener avec ton gun dans la rue, puis le juge a donné raison là-dessus.
Et non, non, mais c'est oui, je veux bien, Luc, mais c'est pas de ça dont on parle. T'as-tu vu l'image?
Oui, oui, complètement. Mais,
l'image
mais
du procureur, là, l'avocat, là, oui, qui a pris le AR-15 puis qui a pointé le jury avec, là, comme s'il allait tirer. Là.
En fait, il voulait leur faire sentir, est-ce que tu te sens provoqué si une arme est pointée contre toi? C'était pour dire que Kyle Rittenhouse avait provoqué les manifestants en leur pointant une arme parce qu'eux pensaient que c'était un tireur actif. Donc, les gens, les manifestants avaient peur. C'est pour ça qu'ils ont voulu lui enlever son arme. On pensait qu'il allait les abattre. Donc, vraiment, c'est ce qu'on tente de déterminer. Et Luc vient de parler du juge. Je dirais juste un petit mot là-dessus parce que le juge est assez particulier. Au début du procès, il a dit « Je refuse que les gens qui ont été tués par Kyle Rittenhouse soient appelés des victimes. »
Hein?
Il a dit « On peut les appeler des casseurs ou des manifestants, là, des rioters en anglais. »
Des émeutiers,
oui. Émeutiers, exactement. Mais on ne peut pas les appeler des victimes.
Aïe, aïe.
Alors déjà,
il y a un jugement éditorial là-dedans. Il y a un jugement éditorial.
Et c'est
pas grand-chose à voir avec le droit. Là.
Écoute, et dans d'autres procès, c'est la même chose. Et si les gens voient des vidéos circuler ce juge-là, il y en a beaucoup sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, il est extrêmement confus. Vraiment, là, je pense qu'il y a des gens, peu importe la décision, vont peut-être contester comment il a jugé cette cause-là parce qu'il semblait vraiment avoir un biais en faveur du tireur là, qui tente de se défendre.
Mais c'est vraiment fascinant parce que tu as raison de dire, d'un côté, on dit l'accusé est un touriste du chaos, comme tu l'as dit, donc il a provoqué les manifestants, donc il ne peut pas plaider la légitime défense. Et de l'autre côté, la défense dit, ben il a été une victime.
Oui, parce qu'on aurait tenté de lui enlever son arme, parce qu'on lui a couru après. Et là, il y a des preuves vidéo. Et d'ailleurs, le jury, dans les choses qu'ils ont demandé depuis hier, là, ils sont en délibération. Ils ont demandé de savoir est-ce qu'on peut revoir les preuves vidéo. Ils ont demandé d'avoir des détails parce qu'il y a énormément de verdicts possibles. Oui, donc, c'est assez complexe. Est-ce que c'était intentionné ou non? Est-ce que c'est de la légitime défense? Alors, bref, c'est assez complexe comme dossier, mais on attend d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, on le sait pas, la décision dans ce dossier-là.
Puis si jamais il est non coupable, on s'attend est-ce qu'il y a des manifestations?
500 membres de la Garde nationale dans une ville d'à peu près 100 000 habitants qui sont là pour en cas parce qu'on se dit que s'il est non coupable, il risque d'avoir de la casse.
Mais dans un sens ou dans l'autre, il risque d'avoir de la casse. Là.
Oui, ou des manifestations, des démonstrations, on le sait pas, mais la petite municipalité a hâte que le procès soit terminé.
Vite, en terminant, Valérie, la tuerie de Sandy Hook, on s'en rappelle, 2012, un tireur de 20 ans qui fait irruption dans l'école primaire Sandy Hook au Connecticut qui tue 20 enfants et 6 adultes. Et là, il y a un conspirationniste qui avait dit que c'était pas vrai, la tuerie.
Oui, des acteurs.
Il a dit que c'était des acteurs pour... créer un contexte favorable au contrôle des armes à feu. Il avait dit que c'était les autorités politiques qui avaient inventé cette histoire-là pour, après ça, limiter l'accès aux armes. Alors là, les parents de certains de ces enfants-là qui ont été tués ont poursuivi au civil et là, le gars va être obligé de leur payer des dommages.
Oui, ils ont poursuivi au civil au Connecticut, mais il y a aussi eu un procès il y a quelques semaines au Texas parce qu'il réside à Austin. Cet homme, Alex Jones, que les gens connaissent peut-être très bien parce que c'est un conspirationniste extrêmement connu aux États-Unis. La chaîne InfoWars, c'est quelque chose qui est connu aussi. Et lui, les gens étaient tellement à le croire qu'il y a des parents qui ont perdu, écoute, leur enfant de quoi, 6 ans, qui recevaient des menaces de mort de gens qui suivaient Alex Jones en leur disant, ben, t'es un ci, puis t'es un ça, parce
c'est
que
pas vrai
tu
que t'as perdu ton enfant.
T'as pas perdu ton enfant, puis là, tu veux juste la sympathie du public, puis tu veux juste te faire un capital politique.
C'est un écœurant. Par chez nous, il y a un mot pour ça, là, c'est une charogne.
Écoute, et tu sais comment qu'ils ont gagné, les parents? C'est qu'il a refusé simplement de se présenter. Il a refusé de donner des documents. Donc, il y a eu des verdicts, des décisions par défaut. C'est très rare aux États-Unis. Donc, il n'est pas là. Il ne veut pas se défendre. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on dit? On donne raison aux parents parce que c'est ce qui s'est passé, entre autres, au Texas. Il a toujours refusé d'aller devant la cour. Il a refusé de se présenter ou même d'être représenté par un avocat qui allait le défendre. Il s'est mis dans cette situation-là. Et là, on va devoir, la cour du Texas et l'autre cour, déterminer ben, ça va être quoi le montant qu'il va donner aux familles.
C'est un gars qui doit faire beaucoup d'argent, là, parce qu'il est très suivi, lui, aux États-Unis.
Ah oui, il est extrêmement populaire.
Eh, boy, ça n'arrête pas de bien aller. Valérie Beaudoin, spécialiste de l'actualité américaine. Merci beaucoup, Valérie.
Merci.
Luc, as-tu un petit commentaire gentil pour terminer, là?
Non, vraiment, t'es dans un bon état.
Fais donc un petit commentaire gentil pour ton animateur, tiens, parce que là, t'en as eu un pour Valérie.
Il est jaloux.
Ben écoute, notre Bernard,
l'air de rien,
notre Bernard, il a fait le tour, là, puis il est rendu, comprends-tu, une super vedette de la radio. On ne l'a pas vu venir, mais on s'en réjouit.
ton Bernard d'Amérique. Tu l'aimes tellement.
En effet.
Salut,
Perhaps
Luc.
Love, bye.
Salut, Luc. Merci, Val.
Merci.
OK, on s'en va à la pause au retour. Anaïs Favron, la nouvelle porte-parole de la DPJ à Montréal.